Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30.
Voilà, circuler, déplacer, construire repose sur un réseau complexe. Voilà pourquoi aujourd'hui, au cours de cette émission Leader et Manager, nous allons parler des routes et la voirie, les Congos de 1960 à 2025. Vous êtes sans une heure qu'on a commencé une série d'émissions sur notre pays, émission bilan. Je sais que dans 45 minutes, c'est pratiquement impossible de faire un bilan, mais du moins, on prend quand même le risque de donner l'essentiel avec les invités des marques qu'on a annoncées. Je commence d'abord avec M. Simon Bosso, qui joue un rôle d'un leader et qui veut toujours associer les autres pour écouter, qu'on écoute aussi les autres. Voilà pourquoi je vous salue en premier lieu, M. Simon, bonjour.
Oui, bonjour Bob, bonjour à nos auditeurs, à nos auditrices et à nos internautes. Soyez les bienvenus à votre émission.
Voilà, nous sommes là entourés du professeur Odilon Gamela, qui est ancien directeur général de l'Office des routes, qui est avec nous au studio. Bienvenue, professeur.
Bonjour.
C'est la première fois de fouler les pieds.
Effectivement, c'est la première fois que je viens à Radio Maria.
quel est votre amour?
Je suis impressionné par la qualité des lieux.
Voilà.
C'est déjà très bien.
Merci.
Déjà, beaucoup. Je suis les émissions, mais là, la qualité des lieux, très bon.
Merci beaucoup. Nous sommes flattés. Et de l'autre côté, nous avons le monsieur Jean Kimbembe Mazonga, ancien gouverneur de la ville province de Kinshasa. Ça vous plaît que je vous appelle Excellence?
Merci beaucoup pour l'invitation.
Ça marche bien.
Merci pour l'invitation et je suis moi aussi, c'est la première fois que je viens ici, je passe devant Radio Maria et souvent j'écoute l'émission du professeur de mon aîné, le ministre Mbosso. Mais ce site est historique pour moi. Mm-hmm. Parce que à l'époque où j'étais gouverneur de la ville de Kinshasa, je recevais souvent le cardinal Etchaou, d'heureuse mémoire, qui était toujours accompagné par Monseigneur Dominique Boulamatari, d'heureuse mémoire, et venait toujours me bousculer. Le cardinal venait me tirer par les oreilles. C'était mon ancien curé de l'église Saint-Pierre. Il disait « Eloko yokotika la tito kotonganda kwan ». Et félicitations à son excellence, à son éminence le cardinal Ambongo, qui a finalement réussi à faire aboutir ces combats.
Très bien, merci beaucoup. Les fils maison, les Congos de 1960 à 2025, les routes et la voirie. On commence par qui?
Bon, je vais présenter d'abord nos invités.
Hein.
Vous avez parlé du professeur Odilon Gamela, c'est un des grands gourous, grand professeur de management à l'université de Kinshasa et dans d'autres universités. Il était récemment le recteur de l'université Congo. Et dans sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions comme haut technocrate, dirigé plusieurs cabinets ministériels et passé par l'Office des routes où il a été directeur général pendant quelques temps. Mon frère et ami Jean Kimbembe Mazonga est agent. Il n'a pas seulement été gouverneur de la ville de Kinshasa, il a été ministre des infrastructures et des travaux publics, directeur général de l'ONATRA, conseiller principal chargé des infrastructures à la présidence. Donc nous avons là une brochette de personnes bien avisées dans le domaine des infrastructures, des routes, de la voirie. Et pour nos éditeurs, c'est une occasion de rêve de pouvoir faire avec eux la rétrospective et les perspectives de ce domaine dans le cadre de nos émissions sur les 65 ans d'indépendance de notre pays.
Très bien, je sais que ça sera difficile de faire les résumés dans ces temps qui nous est accordé, mais du moins, donnons l'essentiel. Je vous donne 5 minutes, ça vous va? Ça, c'est beaucoup. Alors.
C'est très peu, 5 minutes. Hein.
Bon, j'ajoute
vous nous invitez pour un sujet aussi important.
Parce qu'il y aura échange. Il y aura échange, il y a pas mal de questions. Il y aura échange. On va aussi continuer. La continuité va peut-être arriver aussi lors des échanges. Ne vous inquiétez pas, on aura beaucoup de temps. Okay. Mais les 7 minutes, c'est pour nous permettre d'avoir les gros plans de tout ce que vous avez prévu. Vous avez la parole, cher professeur.
Bon, les routes sont d'une importance capitale dans ce pays. Le réseau routier que nous avons aujourd'hui a été tracé à l'époque coloniale. Ça fait 145 000 km. Et ce réseau routier a été conçu en tenant compte des objectifs de l'époque coloniale et de l'économie coloniale. Il devait permettre de pouvoir dégager les produits d'exportation, qu'ils soient agricoles ou miniers, dans les ports, et ensuite de permettre l'approvisionnement des lieux de production et de la population avec les produits importés. Donc ça a été conçu dans une logique d'une économie extravertie, mais ce réseau routier a le mérite, ou avait le mérite en tout cas quand il était encore très fonctionnel, de pouvoir atteindre tous les coins de la République jusqu'au village le plus reculé. Et à l'époque, les réseaux étaient très bien entretenus. Malheureusement, depuis que nous sommes devenus indépendants, les choses ont commencé à se gâter. Au jour d'aujourd'hui, si on prend les dernières estimations, les réseaux qu'on appelle d'intérêt général, ce qui fait 58 500 km, sont à 90% en mauvais état. Il faut souligner que dans ce réseau de 58 500 km, il n'y a que 3000 qui sont asphaltés, ce qui est vraiment insignifiant. Quant au réseau qu'on appelle des routes de desserte agricole, là, le taux de dégradation est à peu près de 70%. Et donc cela va entraîner un certain nombre de conséquences sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan même politique. Sur le plan économique, ce qu'on peut retenir surtout, c'est le fait que la population ne sachant plus dégager la production, elle est tombée dans l'autosubsistance. Conséquence, l'agriculture a perdu toutes ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, notre agriculture ne représente pas grand-chose dans le PIB. Et ce qui fait qu'il y a une autre conséquence, c'est l'augmentation du coût des produits à l'intérieur. Parce que les routes n'existent plus. Autre conséquence notable, c'est que nous importons ce que nous produisions hier. Tout ce qui est agricole, nous devons le produire. Et donc, il y a un recul terrible dans les provinces qui fait que nos arrière-pays sont aujourd'hui délaissés pour compte. Ce qui entraîne des problèmes sociaux graves, y compris l'inaccessibilité aux services de base. Il y a un autre problème qui se pose à cause de nos routes, c'est le manque d'interconnexion de notre réseau routier national avec les réseaux routiers des 9 autres pays. Ce qui fait que notre pays est devenu un véritable trou noir. Nous ne tirons aucun profit de toutes les organisations sous-régionales dont nous sommes membres. Sur le plan social, ça accrue la pauvreté et le chômage. Et il y a une autre conséquence à laquelle on ne pense pas beaucoup, c'est sur le plan politique. Aujourd'hui, la plupart de nos zones frontalières ne sont plus connectés à Kinshasa, sont connectés aux autres pays. Et la monnaie qui a cours dans ces pays, c'est la monnaie de ces pays-là, qui sont devenus à la fois des marchés et des sources de fournitures. Aujourd'hui, dans ces zones-là, c'est le franc CFA, c'est le Kwanza, c'est le shilling ougandais, c'est le franc rwandais, c'est le franc burundais, et c'est le kwacha zambien. La monnaie nationale, on ne la voit plus. Ça, c'est très important et très grave sur le plan politique. Les causes de ces dégradations, elles sont très nombreuses. Je vais en épingler quelques-unes. D'abord, l'insuffisance des montants alloués dans le budget de l'État. Et même les montants qui sont alloués, l'exécution est très mauvaise, très faible. Très faible. Ajoutez à cela les détournements des crédits décaissés. Aujourd'hui, il y a une très grande différence entre l'exécution financière et l'exécution physique. L'ancien inspecteur général des finances disait que le rapport était de 1 à 10. Sur 100 qui sortent, il y a 10 qu'on peut retracer sur le terrain. Il y a aussi un organisme très important qui est le FONER, mais dont la gestion est toujours très opaque, en tout cas inefficace. On ne voit pas ce que fait le FONER sur le terrain. Et enfin, il y a la non-systématisation du salongo à l'époque. À l'époque, les routes de dessert agricole étaient entretenues par le cantonnage manuel. On y a mis fin. Et donc, tout cela nous donne un tableau très, très sombre de notre réseau routier national. Je peux aller très rapidement dans les pistes de solutions qu'on peut trouver. Il y a d'abord, il faut faire un effort pour pouvoir accroître les ressources affectées au réseau routier, que ce soit pour l'entretien, la réhabilitation, la modernisation, la construction de nouvelles routes. Et là, il n'y a pas une autre piste, à mon avis, il faut le péage. Il y a quelques tentatives de péage, mais qui sont insuffisantes. Il faut vraiment aujourd'hui systématiser le péage sur toutes les routes qui sont en bon état. Et surtout bien gérer ces péages. Aujourd'hui, c'est l'artisanat qui est fait dans le domaine des péages. C'est de l'artisanat. Parce que cela peut permettre de dégager beaucoup de ressources qui vont aider le pays, ne fût-ce qu'à assurer l'entretien, la réhabilitation et même financer des travaux neufs de modernisation et de construction. L'autre piste, c'est la réduction du coût au kilomètre de route. Aujourd'hui, on a pris l'option de confier tous les travaux à l'entreprise. Mais moi, j'ai dit que ça, c'est en tout cas mon expérience que j'ai eue. J'ai dit au passage que vous avez oublié, M. Mbos, de me dire que le ministre Kimbembe a d'abord été directeur à l'Office des routes. C'était mon directeur à l'Office des routes. Il s'occupait du matériel. Aujourd'hui, on a pris l'option de faire tous les travaux à l'entreprise. Alors qu'on peut faire des travaux en régie et ça coûte nettement moins cher. Et là, il faut qu'on puisse rééquiper l'Office des routes, une autre institution très importante qui est pratiquement au chômage aujourd'hui. C'est le génie militaire qui a des capacités qui peuvent être mises à la disposition du pays. Vous y ajoutez le service national. C'est très important aujourd'hui. Ils peuvent aider dans les routes de dessert agricole. Et donc là, ça peut diminuer le coût. Et un autre élément pour diminuer le coût, c'est un effort sur deux intrants, les bitumes et les ciments. Les bitumes, on peut les produire localement à un coût moindre. Et les ciments, il est trop cher dans notre pays quand on compare le prix avec des pays limitrophes africains. Et donc là, il y a un effort qui peut être fait de ce côté-là. Il faut également réorganiser le secteur pour plus d'efficacité. Moi, je propose, en remplacement du FONER, de créer un fonds routier qui va vraiment prendre tout ce qu'il y a comme ressources publiques, quelle qu'en soit l'origine, et qui va commencer à les gérer et à les dispatcher en fonction des objectifs. Aujourd'hui, le FONER est limité à l'entretien. Or, les routes, ce n'est pas seulement l'entretien. C'est la réhabilitation, la modernisation, la construction de routes nouvelles. Donc, il faut, à mon avis, remplacer les FONER par un fonds routier. Peut-être qu'on y reviendra. Et ensuite, il faut régionaliser réellement l'Office des routes. Avec des démembrements provinciaux, où on va avoir des structures de l'Office des routes qui dépendent directement du gouverneur. Et ça sera essentiellement pour les routes provinciales, prioritaire et secondaire, tandis que l'échelon central peut s'occuper des routes nationales. C'est très important, la décentralisation. Même, il faut également décentraliser le service, la direction de voies de dessertes agricoles aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut avoir pour des questions vraiment locales une centralisation au niveau de Kinshasa? Il faut vraiment que la direction des voies de cette agricole soit décentralisée, par exemple par la création dans chaque province d'un office provincial de voies de dessert agricole, comme on l'a aujourd'hui avec les structures de récolte des ressources publiques dans chaque province. Voilà en 5 minutes ce que je pouvais dire sur ça. C'est un grand sujet, mais vous m'avez donné que 5 minutes.
Vous avez d'ailleurs réussi à cet exercice avec grande distinction. Nous allons y revenir d'ailleurs dans les échanges. Vous allez encore ajouter. Le même exercice sera tout de suite là accordé ou donné à monsieur les gouverneurs, ministres Kimbembe Mazunga.
Merci beaucoup, mais ce ne sera pas nécessaire parce que là, j'ai été heureux d'écouter mon directeur général, mon patron de l'Office des routes. Le professeur Gamel venait de montrer qu'il a eu un passage glorieux au niveau de l'Office des routes. pense pas qu'il y ait plus à ajouter à ce qu'il a dit. Mais il faut faire comprendre quand même que, et là je reviens un tout petit peu sur ce qu'il a dit, pour l'accompagner, l'appuyer, et puis on va gagner du temps dans la réponse, le jeu des réponses aux questions. Mmh. 1960, le Belge est parti en nous laissant, le professeur l'a dit, 150 000 kilomètres de route. Et je me souviens, si on réécoute les discours du président Kassavubu, le 30 juin 1960, il a dit que le Congo, c'était un chantier de 14 millions d'habitants. 14 millions d'habitants, 145 000 kilomètres de route. Faites les rapports. Aujourd'hui, les professeurs venaient de le dire. Nous avons à peine 23 000 kilomètres de route pour, allez, 100 millions d'habitants. 1960, 145 000 kilomètres de route. On commence l'indépendance avec les guerres, les rébellions, et finalement, en 1990, professeur, sous votre contrôle, oui. 91, on crée l'office de route. Et avec l'option de ne prendre en compte que 55 000 kilomètres de route. De 145 en 60, 91, 55 000 kilomètres. Donc, on a institutionnalisé le désenclavement des provinces de notre pays. L'enclavement. Mmh. Excusez-moi. Merci, professeur.
Mmh. Non, Yassimo.
Donc, on a enclavé volontairement, avec l'appui des bailleurs de fonds, la Banque mondiale notamment. On a oublié. Et au point où, jusqu'il y a peu, il y a des enfants qui n'ont jamais vu un véhicule. Moi, je crois que les jeunes de Lusambo avaient vu un véhicule lorsque nous avons lancé les bacs de Lusambo en 2008. Mmh. Et on a lancé les bacs de Lusambo, les véhicules pouvaient passer. Je suis allé moi-même à Kisangani, je traversais le bac de Lindi, on a créé une voie, un kilomètre vers une cité qu'on appelle Lokolongo, que même le gouverneur de l'époque ne connaissait pas. Et c'était la première fois que les enfants voient un véhicule automobile. Donc, c'est parti de là.
À Kindompolo, ici, c'est pendant la campagne électorale en 2006 que j'ai vu des enfants.
Donc, 145 000 kilomètres, 55 000 kilomètres. Et finalement, lorsque, avec tout ce qu'on a, le professeur Gamel a évoqué un peu tout ça dans son exposé, on arrive finalement à un conflit entre la communauté internationale, les Zaïre mis au banc de la communauté internationale, tous les bailleurs de fonds nous tournent les dos, finalement toutes les lignes de crédit stoppées. C'est à l'époque où vous étiez aux affaires,
exactement,
professeur.
Exactement. Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne sait plus rien faire. Et nous avons eu la mauvaise option de ne considérer que les routes en terre. Les 55 km de route, le prof l'a dit, jusqu'à aujourd'hui, depuis l'époque, on n'a pas dépassé 3000 km de route asphaltée. Ou revêtue à tout le moins. Les routes en terre, c'est l'entretien doit être, la maintenance doit être systématique. Et au Congo, nous n'avons que 3 mois de saison sèche. Il pleut. Donc, il faut entretenir. Il n'y a pas de système. Il y a des mécanismes d'entretien systématiques. Le financement est insuffisant, n'est pas du tout efficace. Le professeur l'a dit. Résultat de la course, plus de routes. Les Congo devient une puissance écartelée. Le prof l'a dit. L'Angola, le Congo central ne fonctionne qu'avec l'Angola, les cabines à l'Angola. Le Katanga avec la Zambie. Le Rwanda, Bukavu, Sud Kivu avec le Rwanda, le Burundi. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, mais il faut qu'on se réveille, qu'on crée, des mécanismes pour arriver à briser toutes ces forces centrifuges qui amènent le Congo à l'extérieur. Et ces forces centrifuges, ce sera un mouvement interne. Il faut un réseau au centre. Si vous prenez la route, la carte du Congo, de la RDC, vous voyez tous les réseaux. Il y a un grand rond à l'intérieur. Il faut créer des routes qui permettent la circulation et ramener et tout ramener vers l'intérieur. Créer des forces, finalement, centripètes. Et tout ça, malheureusement, avec les moyens des autres, et on ne nous accorde que 23 000 kilomètres de ce qu'on a appelé PRP, Programme Routier Prioritaire. Mmh. Et ça, c'est arrivé après, lorsque la Banque mondiale était partie, finalement, deux, trois ans après, quand la Banque mondiale devait revenir, on a dit, ben, allez, on leur donne 23 000 kilomètres. 155 ou 145 000, 55 000, finalement 23 000. Et aujourd'hui, depuis ces 23 000, on a fait l'effort d'arriver, mais on n'a pas encore atteint ou dépassé 30 000 de manière tangible. On spécule, on est autour de 50, 53 000. Il n'y a pas encore, à l'époque, le professeur Gamel a réunissé tous les directeurs régionaux de l'époque. Ils étaient là, chacun faisait l'inventaire systématique de sa région. On savait, au centimètre près, ce qui avait été réhabilité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment faire un effort pour décentraliser, financer des financements efficaces avec les moyens innovants. Il ne faut pas toujours l'asphalte. L'asphalte, on peut aller prendre le sable bitumineux de Mavuma au Congo central. Avec un traitement pas très coûteux, on peut avoir un matériau qui nous permette de faire des routes moins chères. Nous avons été en Turquie, en Iran, en Afrique du Sud, dans des pays qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Mais ils ont des technologies alternatives par rapport au bitume, par rapport à l'asphalte. Il y a des produits de stabilisation, il y a des techniques qu'on peut mettre en œuvre et on avance. Professeur Gamela, je pense que c'était à votre époque où il y a eu Andrade Gutierrez à Goma pour faire la route. C'était peut-être avant vous avec votre prédécesseur.
Quelle route ?
La route Goma, Ishasha, Punagana. Je pense que c'était avec le PDG Mungami Bindo. Oui. On faisait des routes revêtues. Pas de route asphaltée. Mais vous savez, les Congo, c'est quand même... Nous sommes dans une parcelle où il y a l'Esprit de Dieu. Nous parlons sous la protection de Maman Marie. Oui. Le Congo, c'est un pays béni. Au Congo central, nous avons les sables bitumineux de Mavuma. Nous avons visité ça. Au Kivu, oui, il y a le volcan. Mais les cendres volcaniques, c'est quoi? C'est l'un des meilleurs matériaux qui existe pour faire la route. Bref, en mettant un peu des intelligences autour de cette problématique, en commençant par cet excellent exposé du professeur Gamela, que nous pouvons compléter par les réponses qu'on va donner aux questions des auditeurs, si on se mettait en conclave, comme on l'a fait à Mbanza, Luvaka, sous l'égide de l'Université Congo, nous avons réfléchi sur la problématique des infrastructures. Nous avons parlé de l'importance de la route nationale numéro 1 sur le développement du Congo. La route nationale numéro 1 n'est pas la route pour les Mukongo du Congo central qui habitent l'Infu, qui amène son enfant à l'école à Maïdi, et qui fait son chant en Guilinga. Quand est-ce qu'il va passer à Kisantu et profiter de la route nationale? Bref, il faut faire des routes intermédiaires. Il faut intensifier les réseaux, le professeur l'a dit, avec l'objectif de désenclaver les centres de production.
Et connecter les territoires.
Désenclaver les centres de production, les relier aux sites de transit ou de consommation, assurer la circulation. Mais nous avons été en retard pour aller à Mbanzangungu assister au colloque organisé par l'université. Pourquoi ? Parce que quitter Kinshasa, arriver à Mbanza, on ne peut passer que par la RN1. Pourquoi ne pas aller dans ce que nous, au Kivu, on parlerait de Mapandanji, aller passer dans de meilleures conditions sans nécessairement passer par la RN1. Le péage. Le prof a tout dit. Le péage ne sert que à ce qu'il sert aujourd'hui, les résultats du péage. Mais ce n'est pas pour ça. Vous savez qu'à l'époque, quand j'étais conseiller à la présidence, je suis tombé comme ça sur un document. Je ne vous dirai pas où, vous allez rigoler. Mais je peux vous dire quand même, c'était dans un ganda. Il y a un jeune qui passait avec des livres qu'il vendait. Moi, j'étais mal à l'aise. Il y a des amis belges que je devais amener dans un ganda. Vous savez, les gens, quand ils viennent au Congo, c'est matongue, ambiance, etc. Moi, je n'étais pas dans mon assiette. Et je vois un jeune homme qui amène quatre documents, quatre livres à vendre. Un livre sur les 30 ans de relations entre Mobutu et les Belges. Un livre de Jules Verne. Puis un livre sur l'art moderne africain. Et puis un livre volumineux, jauni. Journal officiel, État indépendant du Congo, année 1892. Rapidement, je fais. Naturellement, j'ai négocié, j'ai acheté. Les jeunes hommes ne voulaient pas dire, ah non, on n'a qu'à 10 dollars. Mais alors, donc 4, non, viens, nous, c'est tout 5, 10 dollars, j'ai payé. J'avais un document du 19e siècle.
Ça brille le langue des auditeurs. Ils désirent aussi poser des questions rapidement. Nous allons
alors,
finir.
Oui, c'est stratégique aussi. Hein. Comme ça, ils posent moins de questions.
Nous avons alors, besoin de l'interactivité.
Je vais terminer par là.
Okay.
Alors, à la page 128, c'était instauration du péage sur la route Matadi Kimpese Louviti Koustan les Poules. Le 21 août 1892. Léopold II, roi de Belge, souverain de l'État indépendant du Congo, à tous, présents et à venir, salut. Afin d'investir, de rembourser les investissements sur la construction des abris et des ponts sur la route de caravane, mon aïeul le Mukongo, qui, pour autant qu'il ait une charge de plus de 30 kilos, payait 1 ou 2 francs selon la distance entre Matadi et Stanlepoule. Et aujourd'hui, les gens amènent des tonnes et des tonnes, écrasent davantage de routes et refusent de payer. Est-ce que vous trouvez ça rationnel? Voilà la question à poser. J'espère que dans le débat, on pourra compléter les échanges.
Merci. Merci à vous de réussir à cet exercice. Nous allons passer barguiner aux questions des auditeurs. Mais Folo va nous proposer un morceau musical. Je rappelle le numéro 081-99-66-098. Hein. C'est notre numéro pour passer en direct. Hein. Chacun a écouté les professeurs Gamela qui a parlé de beaucoup de choses, entre autres systématisation du péage. L'ancien gouverneur a parlé de désenclaver les routes de production. Il y a pas mal des réactions, des questions à poser là-dessus. Alors, soyez concis dans vos questions. Folo, tu nous proposes un morceau de musique avant de débuter cette partie interactive.
Je vais juste
commencer à poser des questions.
Non, je ne pose pas de questions. Je rappelle une phrase que j'ai.
Allez-y.
Que, que je dis souvent ici, le professeur Pourri est un grand géographe français qui a écrit beaucoup sur le Congo, qui a dit que la déroute de l'état des routes dénote de la déroute de l'état. Voilà, je voulais juste rappeler ça avant qu'on...
Merci beaucoup. 081 99 66 098, c'est le numéro pour participer en direct à cette émission. Nous sommes en direct et posez votre question, soyez bref, s'il vous plaît. Je prends cet appel avec espoir que vous serez concis. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Allô.
Allô, bonjour, vous êtes en direct.
Oui, bonjour monsieur. Moi je m'appelle monsieur Boulaboula. J'ai bien suivi le sujet du jour et je suis impressionné, et pas du tout, je loue les intervenants qui sont d'une très haute facture et qui font une analyse juste, vraiment, de la situation au niveau des infrastructures de route en République démocratique du Congo. Ma question ne va pas aller dans les interventions tellement elles sont claires, mais c'est plus sur la dernière phrase. Les infrastructures sont l'image de la déroute de l'État. En fait, c'est cela. Comment pensez-vous que toutes ces réflexions si riches que vous avez développées sur le plateau puissent être concrétisées aujourd'hui pour résoudre le problème que nous avons? Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, effectivement, c'est une question de déroute de l'État. Pouvez-vous nous donner quelques pistes par rapport à ça? Parce que les pistes que vous donnez sont techniques, et vous êtes des techniciens et qui avaient mis la main à la pâte d'une façon ou d'une autre, mais avec les résultats que nous avons, cela montre que la technicité a eu des limites. Que devons-nous faire aujourd'hui pour que nous puissions arriver à avoir de bonnes routes? Merci.
Merci. Qui sera les premiers à mordre la maison?
Merci beaucoup pour la question. Je voudrais juste dire que pour trouver les bonnes solutions, nous avons besoin de trois ingrédients. L'expertise, je crois que beaucoup de Congolais en ont. L'expérience, je crois qu'il y a beaucoup de Congolais qui en ont. Mais le troisième élément qui me paraît le plus important pour moi, c'est l'éthique. L'éthique. Je pense que si nous avons l'éthique réellement, notre pays n'aura pas de problème. Les problèmes vont être derrière lui. Parce que les solutions techniques, nous les connaissons. Celles que j'ai énumérées, il y en a beaucoup qui les connaissent également. Mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Et la mise en œuvre se heurte toujours au problème des intérêts personnels, individuels. Nous ne mettons jamais suffisamment en avant l'intérêt général. C'est ça qui nous bloque. Nous avons un système depuis l'indépendance qui tourne autour des intérêts individuels. On ne met pas suffisamment en avant l'intérêt général. Voilà la réponse que je peux vous donner là-dessus.
Allez-y.
Merci beaucoup. Monsieur Boulaboula, merci beaucoup pour votre contribution, votre intervention. Je n'ajoute qu'une chose sur ce que le professeur Gamel vient d'ajouter. J'ai répondu sur ce qu'il a dit au sujet de l'éthique. L'éthique signifie le sérieux. Je vais prendre l'exemple d'un pays voisin, l'Angola. L'Angola a travaillé pendant une dizaine d'années sur la problématique du désenclavement de la... Permettez-moi, de l'enclave de Cabinda. Il voulait réaliser un lien direct entre Luanda et Cabinda. Et ils ont payé des bureaux d'études pour monter des projets, quatre variantes de projets, pour construire les liens entre Soyo et Luanda, mais en passant, et Cabinda, mais en passant par Luanda. Géographie oblige. Et nous, on devait aller. Ils sont venus présenter le projet. Nous, il y a une équipe technique congolaise. Des Congolais, des experts congolais qui devaient aller à Luanda, à Soyo, en Angola. Mais, et là, on a vécu ce que le professeur Gamel vient de dire, l'intérêt particulier. Un conflit entre deux ministres a fait que un ministre a bloqué 12 experts qui étaient prévus d'aller en Angola pour discuter de ces variantes-là pour réaliser ces projets. On n'a pas le temps de citer les noms, on ne va pas citer les noms, on n'a pas le temps de mettre les détails de ces projets. Mais nous nous sommes retrouvés à l'aéroport de Ndolo, moi et les conseillers juridiques du ministre des Plans de l'époque. Nous sommes montés dans l'avion à Matadi. On a été rejoints par le professeur Gamela. C'est pour ça que je l'appelle Irmao, à cause de notre expérience à l'Angola. Le professeur Gamela et Jean Louemba, l'ingénieur Jean Louemba, qui était conseiller technique du gouverneur. Le prof Gamela était directeur de cabinet du gouverneur Mbatshi Mbatshi. Encore une qualité que les auditeurs ne connaissaient pas certainement. On arrive en Angola. Après des discours, il fallait parler technique. Il y avait Kimbembe, Odilon Gamela, Jean Louemba et Janvier qui étaient les conseillers. Donc, un ingénieur, deux ingénieurs, un économiste senior, professeur d'université et puis un conseiller juridique. En face de nous, il y avait 14 experts du côté angolais et chaque expert n'avait pas moins de 3 assistants. C'est ça qui fait le sérieux. Et lorsque, après ce qu'on a appelé les contrats chinois, on a constaté que du côté de l'Angola, ça marchait très bien. Chez nous, ça ne marchait pas. Encore les sérieux. Et il fallait une mission pour aller voir pourquoi ça marche. Moi, je dis à la personne qui avait diligenté la mission à l'époque, je dis, moi, je ne pars pas. Parce que je sais pourquoi là-bas ça marche et pourquoi ça ne marche pas ici. Mais je t'ai interpellé, je dis, parce que là, ils sont sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Je l'ai dit, je peux le répéter. Voilà, donc c'est un problème de sérieux. L'expérience avec les Chinois, c'était la solution pour les problèmes des infrastructures. Mais on n'a pas mis du sérieux dans ça. Tout ce qu'on peut faire, s'il n'y a pas de sérieux, on n'arrivera à rien du tout.
Très bien. Vous venez de parler de l'expertise, vous parlez de l'éthique. J'aimerais vous poser cette question. Les investissements étrangers dans les infrastructures routières, sont-elles une chance ou dépendance? On vous entend parler.
Quels investissements?
Les investissements étrangers dans les infrastructures routières.
Banque mondiale à l'office des routes.
Aujourd'hui, il n'y a pas d'étrangers qui investissent dans les secteurs routiers. C'est justement ce que nous déplorons. Avec le péage, ils peuvent venir. Aujourd'hui, c'est le financement extérieur plutôt dont nous dépendons, qui vient de la Banque mondiale, de la BAD, des instituts de l'Union européenne, de quelques coopérations bilatérales. Ça vient s'ajouter à ce que nous savons mobiliser, mais c'est encore très insuffisant.
Monsieur Mazung avait ajouté quelque chose.
Vous savez, le problème chez nous, c'est qu'on semble avoir laissé les infrastructures routières. C'est comme une charge pour les bailleurs de fonds.
Exactement.
Pour les autres.
Exactement.
Oui. Et vous savez que depuis sa création, le Congo n'a doté l'Office de route des équipements qu'en 2008, je crois, après 38 ans d'existence. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on s'était révolté par rapport au fait que l'Union européenne vient financer la route entre Kisangani, Banal et Bouta sur des ouvertures à 4,5 mètres. Pendant ce temps, le gouverneur Mbatshi, avec la direction provinciale, faisait sur la route de Kisantu-Gidinga des ouvertures de 9 mètres dans le virage 11 mètres. Pourquoi? Parce que le bailleur de fonds s'est imposé. On a dit non. Deux véhicules ne peuvent plus aller de front. Il faudra des ngomo à l'époque, des tam-tam, pour dire qu'il y a un véhicule qui arrive. Et on a dit, mais quelle est la solution? Dotons l'Office de route du matériel. Le gouverneur a l'argent, il achète du carburant. On commence à travailler et on a les standards que nous voulons. On ne dépend pas des bailleurs de fonds. Nous laissons nos routes au financement extérieur. Aujourd'hui, la route au Japon, quand vous allez là-bas, vous trouverez très peu de réseaux qui appartiennent à l'État. Même les réseaux ferroviaires. Avec les péages, aujourd'hui, aux investisseurs qui nous écoutent, le meilleur investissement au Congo aujourd'hui, c'est les réseaux routiers. Ils mettaient un péage sur la RN4. Vous venez de Beni, Butembo, vous arrivez à Mambasa, jusqu'à Kisangani, Banal Yabuta, avec la possibilité de sortir sur le fleuve Congo. Imaginez les péages. Et on vous dit non, on ne peut pas instaurer un péage parce qu'il n'y a pas de véhicule. Non, il n'y a plus de véhicule parce qu'il n'y a plus de route. Lorsqu'il y aura la route, quand on va investir sur la route, vous savez, ici, les Quinois, quand...
Rapidement, il y a pas mal de
oui,
questions.
Oui, hein. mais on doit donner de la matière aussi.
Allez-y. Hein.
Les Quinois, quand tu vois une autorité, dit « Nzala ». À l'intérieur, au Kivu notamment, quand ils voient une autorité, dit « Ndjia ». Ils ont besoin de la route. Tout est là-dedans.
Voilà. Les péages pour dégager beaucoup de ressources. Hein. Allez, on va écouter Joseph Demary qui pose aussi sa question par rapport à notre thème.
Bonjour Baba, bonjour cher papa et merci beaucoup pour cette très belle émission. Hein. Bon, les voiries à l'époque coloniale, moi j'ai une petite observation. Est-ce que toutes ces routes-là à l'époque coloniale n'étaient-elles pas construites uniquement pour les besoins coloniaux, pour les ceux qui étaient venus d'abord nous coloniser eux-mêmes dans le seul but de l'exploitation, d'exploiter nos ressources naturelles, tout en abandonnant la population quand même locale? Est-ce que l'infrastructure, d'ailleurs, même à l'époque coloniale, notamment au Congo belge, était suffisante au niveau de l'entretien? Parce qu'apparemment, il paraît que ces voiries étaient souvent construites uniquement pour faciliter l'exploitation des ressources naturelles au détriment des besoins de la population locale. Alors, à quoi servent les routes, toutes ces voiries-là, si la population locale n'avait pas bénéficié de fruits issus de tel coin ou tel... territoire. Et pour finir, aujourd'hui, à travers la capitale Kinshasa, certains de nos bambouta, de nos vieux qui ont vécu à l'époque, nous montrent certains tronçons de routes construites depuis l'époque, entre parenthèses, coloniale ou l'époque belge, voire même certaines maisons qui sont encore en bon état jusqu'à aujourd'hui, qui ont été construites depuis le Belge. Quel a été le secret des Belges et quels matériaux ils utilisaient souvent? Merci beaucoup, cher papa.
Merci beaucoup pour cette question. En fait, ça me permet de revenir sur ce que j'avais dit. J'ai précisé dans mon introduction que les réseaux routiers de notre pays avaient été conçus dans la logique coloniale. Ces réseaux routiers devaient permettre, d'une part, d'exporter, d'acheminer plutôt vers les ports d'exportation, les matières premières agricoles et minérales qui étaient produites, et de l'autre côté, de pouvoir approvisionner le lieu de production, le lieu de consommation avec des équipements, les intrants et les produits de consommation. C'était donc dans cette logique. Mais curieusement, malgré cette logique, ça permettait de pouvoir atteindre tous les coins de notre pays. Nous avons la chance d'avoir vécu à l'époque coloniale. Le moindre village était accessible par VOI. Le moindre village, j'ai dit bien le moindre village de notre pays. Donc, quoi qu'est construite, imaginée dans une logique d'une économie extravertie, ça permettait d'arriver partout. Et c'est ce qui permettait justement aux paysans de pouvoir produire et commercialiser ce qu'ils produisaient. À l'époque, les gens n'avaient pas besoin de venir à Kinshasa parce que tout était bien chez eux. Ils pouvaient travailler, dégager leur production et s'approvisionner en biens manufacturés. Malheureusement, avec l'arrivée de l'indépendance, on a lâché cet effort. Parce qu'il y a un grand problème. Dès que notre pays accédait à l'indépendance, on a oublié le sens du budget. Le budget, c'est une loi. Et une loi doit être respectée. Depuis lors, le budget est devenu un chiffon de papier. Ce qui est prévu dans la loi des finances n'est jamais appliqué. Conséquence, plus d'entretien, plus de réhabilitation et la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et j'en profite pour rebondir à la question qui concernait justement le financement. Aujourd'hui, le financement a été laissé aux partenaires extérieurs, ce qui n'est pas bon. Moi, quand j'étais PDG de l'Office de route, j'avais constaté que même pour le fonctionnement de l'office des routes, la Banque mondiale devait intervenir. J'étais parti dans une mission, dans le Kivu, justement, comme le dit le ministre Kimbembe, et j'ai constaté qu'il y avait une route qui était dans un état impeccable. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment cette route est entretenue dans cet état impeccable? On m'a dit, non, c'est la route des missionnaires. Il y a un péage qui a été instauré. Je suis allé, j'ai parlé avec eux. Ils m'ont expliqué comment ils utilisaient l'argent pour maintenir la route en très bon état. De retour, je me suis souvenu que quand j'étais étudiant en Europe, un pays comme la France, tout son réseau autoroutier était basé sur le péage. J'ai eu donc cette idée-là de proposer qu'on puisse faire un péage. Et j'ai fait faire une étude par mes services, une étude sommaire. Parce qu'à l'époque, malgré le fait qu'on appelait l'office de route l'office de trou, le réseau routier était en très bon état. Il y avait des routes en terre sur lesquelles on circulait à 100 km à l'heure, notamment entre Kindu et Kibombo. Des routes en terre. Et ils m'ont fait une étude qui a dégagé que, à l'époque où le budget de l'État était de moins de 1 milliard de dollars, hein,
c'était les 300 millions.
En instaurant un péage modique, on arrivait à 400 millions de dollars chaque année. Ça m'a étonné. J'ai fait cette proposition. Ceux qui ont combattu cette proposition, c'était la Banque mondiale. C'était la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a tout fait pour qu'on puisse enlever tous les travaux en régie qui étaient faits à l'Office des routes pour que ce soit des travaux à l'entreprise. Comment ils l'ont fait? Ils ont obligé le PDG qui est venu après moi de vendre tous les équipements. Je suis en face de moi avec le directeur Kimbembe qui était justement le directeur du matériel. On a liquidé tout le matériel de l'office de route. Et donc l'office de route n'était plus capable d'intervenir. Alors que quand vous avez votre matériel, il suffit de donner du carburant, des huiles et une petite motivation aux agents de l'office de route. Ils étaient capables de faire des travaux impensables. Donc c'est ça qui a manqué. Le financement et le manque d'entretien qui nous a amené à la situation où nous sommes aujourd'hui. Les Belges ont fait beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais en tout cas, en matière de route, ils nous ont laissé quelque chose d'impeccable. C'est nous qui avons tout mis en moule.
Très bien, merci beaucoup. Nous mettons déjà les bouchées doubles. Vous avez quelque chose à ajouter?
Non, c'est impeccable ce qu'a dit le prof.
Très bien, les temps filent déjà. Nous devons d'ailleurs terminer avec cette émission. Je vous accorde une minute pour déjà conclure parce qu'il y a un autre programme qui va suivre. Il y a une question ici, il y a un message sonore de 5 minutes, alors ça va consommer toutes les minutes restantes. Allez, je commence avec vous, monsieur.
À tout seigneur, tout
seigneur. Ah ok, d'accord. Professeur.
Bon, je voulais juste terminer par... C'est d'abord regrettable qu'une émission si importante soit si courte.
Ce n'est qu'une partie remise. Vous allez revenir. Vous allez revenir.
Je voulais dire que il a parlé de l'état de certains tronçons qui ont été construits à l'époque des routes, à l'époque de coloniale, qui sont encore en parfait état. C'est l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui. Le respect des normes et donc le respect de la qualité qui est requise. Une route se construit avec des normes précises. Et quand ces normes sont respectées, la route a une durée de vie bien supérieure à ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des routes qui ont été refaites en 15 ans. On a refait la route 3 fois ou 4 fois. Ça montre tout simplement qu'il n'y a pas de sérieux. Nous avons pourtant le BTC, le bureau de contrôle technique, qui devait faire le travail de contrôle, mais qui ne le fait pas. Ça, c'est un des grands problèmes que nous avons. Le sérieux dans les travaux.
On l'empêche de le faire.
Bon, ça c'est un autre débat. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, vraiment, je reviens toujours à cette affaire de l'éthique. C'est l'éthique qui est à la base de tout.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Mazunga, nous terminons avec
vous. Bon, on l'a fait un peu.
Il y a d'ailleurs une question ici, en passant, vous pouvez conclure ça avec ça. Ne laissez pas partir l'ancien gouverneur pour expliquer la cause ou les problèmes des embouteillages à Kinshasa. Bon, nous sommes déjà...
Ça vaut une émission.
Hein. Exactement.
Ça vaut une émission. La prochaine fois, nous allons parler sur ces causes-là et on a les solutions.
Ah, ok, d'accord.
Pour le moment, moi, je vais résumer.
Ok.
Au regard de tout ce que nous avons dit moi-même, professeur, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est renforcer les capacités techniques institutionnelles. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut mettre en place une planification intégrée et durable. Nous avons l'habitude de naviguer à vue. Et on ne construira rien sans planification. Assurer la maintenance régulière des infrastructures. Le professeur Gamel est revenu là-dessus, dans son exposé et dans sa contribution tout à l'heure. Promouvoir la transparence et la lutte contre la corruption. L'être sérieux.
L'éthique.
Impliquer les communautés locales dans la gestion. On peut développer là-dessus. Mais vous devez, à l'époque, c'était quoi? Les cantonnages manuels, c'était assurer les Belges du pays, les capitats du village, à qui on donnait un peu de motivation, les profs l'ont dit, et qui s'occupaient d'un kilomètre site. Tout le monde s'occupe d'un kilomètre. Vous avez les 300 kilomètres qui sont pris en charge. Voilà. Donc, la situation des infrastructures en RDC nécessite une action concertée et continue. Ensemble, acteurs publics et communautés, nous pouvons construire un réseau durable qui soutienne le développement harmonieux du pays.
Très
voilà
bien.
Mon mot de la fin.
Merci beaucoup. 65 ans, ça ne s'arrête pas seulement au bilan, mais on a donné aussi quelques pistes de solutions à nous d'exploiter. Alors, monsieur Cibot.
Nous terminons par remercier nos amis professeur Gamela, Jean Kimbembe, pour leur disponibilité. Ils reviendront certainement. Nous avons toujours une demande sociale
oui.
pour
ces surtout ces avec questions. Les embouteillages qu'on pose.
Et nous rappelons notre numéro de téléphone pour... la suite des contacts, le 085 0151 720. Merci pour
merci,
votre écoute.
Merci beaucoup. Nous rappelons aussi que cette émission sera tout de suite podcastée sur le site de Radio Maria, www.radiomaria.cd. À Cédric Folo, nous disons merci.
Leader et manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une mission d'information et de formation au leadership.